Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour professeur Arnaud Fontanet.
Bonjour.
Épidémiologiste, vous dirigez la task force de l'Institut Pasteur, membre du conseil scientifique. Je citais en début de journal tout à l'heure les derniers chiffres officiels, 523 morts en 24 heures, 3000 hospitalisations, comme début avril. Est-ce que c'est la même dynamique d'épidémie? Que disent vos projections?
Alors, ce dont on se rend compte actuellement, c'est qu'effectivement, c'est une dynamique très forte. On est sur des niveaux de nombre d'infections par jour, si on fait des extrapolations à partir de ces chiffres, qui sont très proches de ceux qu'on avait juste avant le confinement à la mi-mars. La seule différence, c'est que la dynamique est un peu plus lente parce que, bon, les gens se protègent. Donc, au lieu que ces nombres doublent tous les 3 ou 4 jours, ils doublent actuellement tous les 1 à 2 semaines. Mais ça reste une dynamique extrêmement forte.
Ça veut dire que, quelles que soient les décisions de ce soir, le système de santé sera submergé par un afflux de malades et que le bilan humain sera forcément très lourd?
Alors, il y a effectivement déjà des hospitalisations à venir et des passages en réanimation à venir contre lesquels on ne pourra pas faire grand-chose puisqu'il n'y a pas de traitement qui permette de les éviter. On sait quand même aujourd'hui mieux prendre en charge ces patients, mais pour ce qui est de la surcharge hospitalière, elle va être très forte puisque toutes les régions vont être concernées.
Donc il faut, comme le disait tout à l'heure le professeur Salomon, il faut un coup de frein, il faut des mesures de reconfinement. S'il y en a, quand pourrait-on en voir les effets?
Alors il faut effectivement des mesures très fortes et très vite pour effectivement freiner cette diffusion du virus. Les effets, les premiers effets, on les verra dans une semaine à peu près sans pouvoir les mesurer. On commencera à les mesurer à partir de 10 jours, notamment sur le nombre de nouvelles hospitalisations chaque jour. Ça, c'est un chiffre qui est fiable. Le chiffre des nouveaux cas est beaucoup plus difficile à interpréter parce que dès que les services de dépistage sont saturés, ils ne reflètent plus la réelle dynamique de l'épidémie et c'est probablement le cas aujourd'hui.
Qu'est-ce qui vous semble le plus efficace compte tenu de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas sur les modes et les lieux de contamination? Qu'est-ce qu'il vous semble d'un strict point de vue médical important de fermer ou d'arrêter dans le pays?
Alors il y a deux choses. Il y a effectivement, et je vais y revenir, ce qu'on peut arrêter et fermer, mais il y a aussi ce que les gens peuvent faire eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il est plus que jamais extrêmement important de respecter les mesures barrières, d'éviter tout contact non protégé avec une personne qui n'est pas de votre entourage immédiat. Après, en dehors de ces gestes barrières et de l'aération des locaux, qui est aussi quelque chose de très important, il y a effectivement des lieux qu'il va falloir fermer pour éviter des contacts entre personnes parce qu'ils s'y produisent et volontiers non protégés. Donc c'est tous les lieux un peu densément peuplés. Il y aura certainement donc des mesures autour de couvre-feu ou confinement. On ne connaît pas encore exactement ce que le gouvernement va choisir, mais qui feront qu'à partir d'une certaine heure, de toute façon, la vie va s'arrêter, en tout cas publique. Et puis après, il y aura des lieux, alors là, je ne sais pas où le curseur va être mis, il y a des lieux qu'on gardera ouverts qui sont des lieux essentiels d'alimentation, les services publics essentiels. Et puis après, sur les autres lieux, ils pourront éventuellement rester ouverts, mais dans ces cas-là, ça demandera aux personnes qui déjà tiennent ces lieux de s'assurer que les mesures barrières sont au mieux respectées, parce que c'est la seule façon de les garder ouverts. Et puis à chacun, comme je le disais au début, d'être très discipliné, parce que c'est vraiment l'affaire de tous pour éviter de retomber dans la crise majeure qu'on a eue en mars, et on n'est déjà pas très loin de cette crise majeure.
Et pour les écoles, qu'en est-il de ce débat en apparence toujours pas tranché scientifiquement sur les établissements scolaires avant la rentrée prévue lundi prochain?
Alors les écoles, c'est un des sujets les plus complexes parce que ce qu'on a pu observer, c'est que notamment dans les crèches et les écoles primaires, il n'y a pas d'épidémie visible parce que les enfants font des formes très peu symptomatiques. Donc on n'a pas la possibilité même de se rendre compte à quel point le virus circule. Il circule probablement. Une bonne nouvelle, c'est que les enquêtes qui ont pu être faites auprès des enseignants, qui sont les premiers exposés, montrent que les enseignants n'ont pas des taux d'infection plus élevés que le reste de la population. Donc probablement, il y a peu de passages des enfants aux enseignants. En revanche, il peut y avoir des passages vers les familles. Donc un enfant qui serait d'âge école primaire ou de crèche et qui a des symptômes, eh bien, il faut s'en protéger d'une certaine façon. Et là, c'est des choses qui sont compliquées à mettre en place quand on est dans la cellule familiale. Mais sur les écoles primaires, la plupart des pays européens, si je dois m'y référer par exemple avec des pays qui connaissent la même crise que nous, vont probablement les garder ouvertes. La question plus difficile, c'est les collèges et les lycées, parce que là on sait que le virus y circule, que les enseignants peuvent être touchés, que Bon, les collégiens et les lycéens, ces adolescents, ils sont comme des adultes finalement en termes de susceptibilité à l'infection et de contagiosité pour les autres. Donc soit on peut les garder, mais peut-être en s'assurant vraiment de respecter les distances physiques, ça veut dire aussi probablement limiter les effectifs par endroit, et puis surtout que ces adolescents qui sont capables de respecter les gestes barrières, soient conscients eux-mêmes de l'importance de le faire, et notamment les rassemblements avant et après de rentrer par exemple au collège ou au lycée, ça c'est des choses où il faut être extrêmement prudent.
Reconfinement, restrictions renforcées, combien de temps? C'est aussi l'autre question. Est-ce qu'il vaut mieux un confinement strict de 2 ou 3 semaines ou des restrictions plus souples qui permettent de maintenir la vie économique pendant un mois et demi?
Alors le dilemme, c'est que finalement, il est quasi évident que de taper fort au début est la meilleure stratégie pour ce qui est de contenir l'épidémie. Quitte à ce qu'on puisse relâcher un peu plus vite les mesures une fois qu'on a fait redescendre le niveau de circulation virale. Mais il y a ce qui est acceptable à la fois pour les Français et pour les entreprises. Et c'est là qu'il faut vraiment trouver les bons compromis parce que tout ce qu'on fera pour laisser quand même l'économie souffler, enfin respirer un peu, hein, parce qu'elle en a besoin, risque de prolonger la durée de ces mesures qu'on mettra en place. Donc c'est un équilibre extrêmement difficile à trouver entre taper fort, qui est absolument nécessaire pour casser la dynamique de l'épidémie, et ne pas étouffer complètement l'économie. Et c'est vraiment un exercice très difficile, où là encore, je pense qu'il faut qu'on ait la compréhension de tous, parce que taper trop peu au début ne ferait qu'entraîner une situation qui serait dans la durée et nécessiterait éventuellement des mesures de plus en plus fortes par la suite. Donc, voilà, il faut vraiment être conscient de ça et trouver le meilleur équilibre.
Oui, ce qui pose déjà la question du déconfinement, parce que aussitôt les mesures levées, le virus va recommencer à circuler, comme ça s'est produit au début de l'été. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, non ?
Oui, c'est toute la difficulté qu'il y a aussi dans un mort. Déjà, c'est un moment très dur. Hein, et je comprends que pour les Français, d'entendre tout ça soit extrêmement démoralisant. Après, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on est là dans la durée, parce que malheureusement, on rentre dans la période hivernale. Et ce qu'on vit aujourd'hui a probablement été aggravé par le coup de froid qu'on a eu fin septembre, qui a duré qu'une semaine, mais qui vraiment a donné, non seulement sur la France, mais sur l'ensemble de l'Europe, vraiment une reprise de l'épidémie. Et donc, comme on rentre dans une période hivernale, il ne faut pas s'attendre à ce que le virus nous laisse la moindre chance dès qu'on aura, on sortira de confinement. Donc la sortie du confinement, elle devra se faire prudemment, comme on l'avait fait en mai et juin. En juin, vraiment, on avait encore un contrôle du virus. C'est pendant l'été, malheureusement, que les choses se sont aggravées. Et donc, c'est cette même attitude qu'il faudra savoir garder en sortie de confinement pour préserver tous les gains qui auront pu être faits pendant le confinement sur la circulation du virus.
Arnaud Fontanet, ce que beaucoup de Français ne comprennent pas, c'est comment on en est revenu à la situation du printemps avec des comportements qui sont très différents, avec un port de masque qui, malgré tout, semble très largement respecté.
Alors c'est vrai qu'on voit bien que le port de masque est respecté. Je pense aussi que l'hygiène des mains, les gens ont bien compris qu'il ne s'agit pas simplement d'un port de masque, mais de l'hygiène des mains, de maintenir une distance physique, d'avoir une fois de plus l'aération des locaux. Je le répète encore parce que c'est quelque chose qui a peut-être été moins entendu. Ce qui, là sans qu'on ait vraiment les données pour le dire, mais nous semble pas vraiment fonctionner, c'était la diminution des contacts au sein de la cellule familiale, les amis. Alors, il ne s'agit pas du tout de culpabiliser les gens ici. On n'est vraiment pas dans cette démarche parce que pour l'instant, on a besoin d'être tous solidaires et d'avancer. Mais c'est de restreindre les contacts non protégés qui, quand même, pour beaucoup, ont vraisemblablement eu lieu au sein de la cellule familiale ou avec ses amis. Et c'est là qu'il faut qu'on avance ensemble pour tenir le coup dans les semaines qui viennent.
Un dernier mot, Arnaud Fontanet. Le Conseil scientifique a régulièrement produit des alertes depuis juillet sur les risques d'une deuxième vague. Est-ce que vous vous reprochez aujourd'hui de ne pas avoir crié assez fort ou est-ce que vous reprochez aux décideurs ou aux Français de ne pas vous avoir assez écouté?
Alors franchement, je ne suis pas du tout dans une attitude aujourd'hui de qu'est-ce qu'on aurait dû faire, qu'est-ce qui s'est pas bien passé, etc. Parce que je suis dans une attitude très combative par rapport à ce qui nous attend. Hein. C'est pour moi la priorité. Effectivement, nos messages ne sont pas passés. Peut-être qu'on n'a pas su communiquer sur ces messages. Après, c'était très difficile. Rappelez-vous, début septembre, les gens revenaient de vacances, n'avaient vraiment pas envie d'entendre parler de ce nouveau coronavirus. Il y a eu des informations qui ont circulé dans les médias qui étaient très erronées sur ce qu'était la dynamique de l'épidémie et qui n'ont fait qu'ajouter de la confusion dans l'esprit des gens. Mais voilà, on tourne la page, on se concentre sur ce qui nous attend parce que c'est vraiment la priorité.
Merci professeur Arnaud Fontanet, merci d'avoir été en ligne avec nous.